Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est peu de dire que son intervention était attendue. Aung San Suu Kyi s'est enfin exprimée publiquement ce matin à la télévision pour évoquer le sort des Rohingyas, cette minorité musulmane qui fuit la Birmanie par dizaines de milliers pour échapper à la répression de l'armée. La dirigeante birmane, par ailleurs prix Nobel de la paix, s'est dit profondément désolée pour les souffrances de tous ceux qui se sont retrouvés pris au piège de ce conflit, autrement dit les musulmans, mais aussi les bouddhistes. La question des persécutions des Rohingyas en Birmanie n'est pas nouvelle. Mais il a fallu que des rebelles de cette communauté attaquent des postes frontières fin août et que l'armée birmane déclenche une répression assimilable, selon l'ONU, à une opération de nettoyage ethnique pour que ce conflit prenne une dimension internationale, ne serait-ce que pour son impact sur le Bangladesh voisin qui accueille l'essentiel des réfugiés. Dans ce pays, le Bangladesh, mais aussi en Indonésie et même en Russie, des manifestations sont organisées depuis début septembre en soutien à cette minorité, au nom de la solidarité entre musulmans. Des organisations islamistes surfent sur une prétendue indifférence des médias occidentaux pour alimenter le ressentiment des populations et certains craignent désormais que la défense de la cause Rohingya ne devienne un nouveau motif de djihad. Alors Rohingya, un conflit contagieux, c'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Sophie Boisseau-Durocher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, également chercheuse associée au GRIP, le groupement de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Vous me faites signe que...
Non, je ne suis plus là au GRIP.
Alors, vous n'y êtes plus au GRIP, mais vous y avez été.
Voilà.
Bon, ben vous n'y êtes plus. Dominique Moïsi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, professeur au King's College de Londres, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. J'évoquerai votre tout dernier ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Observatoire, enfin coédition avec les Échos dans lesquels vous signez des chroniques régulières, Le Nouveau Déséquilibre du Monde. Et puis notre troisième invité est au téléphone à Hong Kong. Il s'agit de Didier Chaudet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant spécialisé dans les questions de sécurité en Asie du Sud, directeur de la publication du CAP, le Centre d'analyse de la politique étrangère, qui est un think tank, par ailleurs attaché scientifique à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Alors, première question que je voudrais vous poser à tous les trois, à propos de ce qu'est aujourd'hui peut-être la dimension de cette crise, de ce conflit autour des Rohingyas en Birmanie. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où plus de 400 000 ont fui depuis la fin août vers des pays voisins, et notamment le Bangladesh, que cette question ne peut plus être considérée comme une question strictement nationale, Dominique Moïsi?
C'est une question... qui a des répercussions régionales, vous l'avez dit. Il y a 1 million de Rohingyas en Birmanie. On pense que plus de la moitié ont quitté leur domicile. Donc c'est une crise humanitaire de première importance. Et puis il y a la dimension, bien entendu, de l'islam. Qui est utilisé sous la forme de la solidarité par certains mouvements islamistes. Alors, d'où la question, est-ce que ça ne peut pas être demain un foyer de terrorisme, moyenne orientalisation de la crise, et à l'inverse, utilisation par un nationalisme bouddhiste d'une carte anti-musulmane spécifique. Donc d'un côté, vous avez le problème de l'islam et du fondamentalisme. De l'autre, vous avez la montée de nationalisme religieux hindouiste et bouddhiste dans cette partie du monde.
Alors ça, il s'agit de craintes peut-être déjà effectives aujourd'hui, mais qui sont peut-être avant tout des craintes pour demain. Pour ce qui en serait de la qualification aujourd'hui, Sophie Boisseau-Durocher, de ce conflit, est-ce que le terme, le qualificatif de conflit régional vous paraît adapté à ce qui est en train de se passer pour cette minorité musulmane de Birmanie ?
Alors, non, le conflit est un conflit national, hein, il s'inscrit dans les spasmes de la construction de l'État-nation birman, mais il a d'évidentes répercussions régionales, sachant précisément que les réfugiés fuient ou vers le Bangladesh, ou vers les pays musulmans d'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie, qui accueille déjà 60 000 réfugiés, ou l'Indonésie, et qu'il génère des crises importantes au sein de l'association régionale qui est l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est.
Et qui suscite aussi quoi ? Des fragilités peut-être politiques, disons, dans ces pays qui accueillent des réfugiés, comme ça arrive justement, bah, on pense par exemple au conflit syrien avec énormément de réfugiés qui se sont retrouvés dans les pays voisins, je pense à la Jordanie, je pense au Liban, où on voit à quel point ça a pu justement fragiliser les structures de ces États. Là, est-ce qu'on assiste déjà à ce type de fragilisation ou c'est trop
alors,
tôt pour le
oui,
dire ?
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'ASEAN a quand même été créé en 1967 pour protéger précisément les constructions nationales. Hein, il ne faut pas oublier qu'en Indonésie, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusqu'à 2004, le problème d'Aceh était un problème quasiment de même type, si ce n'est que c'était un islam plus radical au sein d'un ensemble musulman, mais il y avait des tensions énormes entre le pouvoir central et cette région de Sumatra Nord. La question avait donc aussi des répercussions régionales et l'ASEAN pendant très longtemps a protégé les constructions nationales jusqu'au moment où les dirigeants ont pris conscience que il y avait peut-être un intérêt à laisser et à ce que le problème soit également traité au niveau régional, ces populations étant, je dirais d'une certaine façon, parfois des populations flottantes entre différents États. La question là, c'est que les militaires aujourd'hui en Birmanie ne veulent pas que l'ASEAN prenne position sur ce conflit qu'ils estiment être un conflit d'abord interne.
Voilà, ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe une dizaine de pays. J'achève ce premier tour de table avec vous, Didier Chaudet. Donc, je rappelle que vous êtes à Hong Kong sur la dimension donc régionale ou pas régionale. En tout cas, un conflit et une crise qui ont un impact dans la région.
La dimension régionale aujourd'hui est claire. Bien sûr, tout commence avec la Birmanie, mais l'État d'Arakan et ce qu'on appelle aujourd'hui le Bangladesh ont une longue histoire. Les liens entre les deux populations, les deux zones, sont très présents depuis au moins le 15e siècle. Donc, au-delà de la Birmanie, vous avez le rapport à l'environnement régional asiatique. Très clairement, en Asie du Sud, que ce soit en Inde ou au Pakistan ou au Bangladesh, on suit dans le détail ce qui se passe en ce moment. On est ou révolté ou opposé à ce qui se passe en Birmanie, ou au contraire, quand on regarde du côté des extrémistes hindous qui sont aujourd'hui très proches du pouvoir indien, on soutient la répression des Rohingyas et on l'explique. Et aujourd'hui, vous avez quelque chose en plus qui peut mettre le feu aux poudres. En effet, c'est le fait que vous avez une force de résistance armée du côté des Rohingyas, l'armée du salut des Rohingyas de la Rakhine, qui ne sont pas très forts, mais qui se sont fortement développé ces deux dernières années.
Quand vous dites Didier Chaudet, qu'on suit ces questions de très près dans un certain nombre de pays environnants, c'est aussi dans la crainte qu'il y ait une exportation de ce conflit en dehors des frontières birmanes ?
Ah, totalement. Vous avez eu une analyse du côté des Indonésiens, notamment laissant à penser que cette grande migration des Rohingyas vers le Bangladesh pourrait nourrir le djihadisme au Bangladesh, voire aider à la déstabilisation du pays. Vous avez une crainte du côté des Indiens, bien sûr, du fait que cette crise puisse nourrir le djihadisme transnational dans la région. Donc, qu'on soit pro-birman ou pro-Rohingya, les positionnements déjà se sont durcis. En Asie du Sud, c'est très clair. Et il y a une peur dans les deux côtés d'un bouleversement régional renforçant des dynamiques de chaos, des dynamiques de terrorisme.
Dominique Moïse, vous avez signé il n'y a pas très longtemps dans le journal Les Échos un article qui s'intitulait « La stabilité de l'Asie en péril ». Alors, votre article était surtout consacré à la crise nord-coréenne. Mais est-ce qu'on pourrait dire que d'une manière un peu générale, on est sur un continent, et s'agissant de l'Asie du Sud-Est, sur un sous-continent qui est soumis à certaines fragilités et que une crise nationale qui s'y déroule peut avoir des impacts qu'on ne mesure pas forcément, mais parce qu'ils sont à venir, mais qu'en tout cas peut avoir des impacts du fait de cette fragilité peut-être. On parle souvent, on entend parler désormais de poudrière asiatique, par exemple, Dominique Moïsi.
Oui, le fait marquant dans la crise que connaît Myanmar, avec sa minorité musulmane...
C'est le nom de la Birmanie.
La Birmanie. Je rappelle, parce que c'est important, que c'est une minorité qui ne représente que 4% de la population. 88% des Birmans sont de religion bouddhiste, 6% sont chrétiens, et seulement 4% sont musulmans. Et donc vous avez une minorité qui a été humiliée, maltraitée à travers les âges, et qui a développé en son sein un groupe qui a pris les armes. Et c'est la surréaction de l'armée birmane qui a créé ce mouvement de réfugiés majeur. En fait, c'est intéressant statistiquement. C'est la moitié de la population musulmane de la Birmanie qui est partie. C'est la moitié de la population syrienne qui est partie. Donc ça n'a rien à voir en termes de masse, mais en même temps c'est des proportions égales. Le fait le plus important pour moi, c'est que bien évidemment les voisins de la Birmanie sont soit à majorité musulmane comme l'Indonésie, à majorité bouddhiste comme la Thaïlande, et chacun va réagir à partir de la définition qu'il se donne de lui-même. Et ce qui est grave, c'est effectivement, c'est ce qui me paraît le plus inquiétant, c'est la montée d'un nationalisme hindouiste en Inde, derrière Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, et d'un nationalisme bouddhiste, derrière des groupes de bons qui ont choisi la radicalité religieuse. Donc chacun va se redéfinir, et c'est ça qui est grave, non plus par rapport à la nation, mais par rapport à la religion. D'où le risque que des nations explosent, ou que des nations se retrouvent en conflit les unes avec les autres à partir d'une division d'ordre religieux.
Sophie Boisseau-Durocher, vous évoquiez tout à l'heure le rôle de l'ASEAN, donc cette association des nations d'Asie du Sud-Est. Il y a quelque temps, vous aviez été invité sur RFI pour parler justement de cette structure, et vous disiez à son sujet que que l'ASEAN, coincée entre l'Inde et la Chine, qui n'en font pas partie, les pays de l'ASEAN ont toujours su faire preuve d'une aptitude au syncrétisme, à la négociation et au compromis. Est-ce que ces trois dimensions-là vous paraissent être remises en cause aujourd'hui par le phénomène que décrit Dominique Moïsi, d'une montée d'un nationalisme adossé à la question religieuse?
Alors, remise en cause, non, parce que les sociétés restent quand même relativement résistantes et n'abondent pas systématiquement dans le discours radical. En revanche, ce discours est de plus en plus instrumentalisé par des personnalités qui ont intérêt, pour leurs propres intérêts, à exacerber la situation. Et c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que effectivement, on voit ici et là, en Asie du Sud-Est, des groupes, des factions qui ont intérêt à la radicalité pour faire entendre leur message politique et occuper un espace politique dans la scène nationale. Donc ça c'est effectivement un grand risque.
Et est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas alimente justement le discours de ces groupes?
Oui, et parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement une échelle nationale, mais il y a également une échelle transnationale. Et souvent, ces groupes se rattachent les uns aux autres et surabondent, si vous voulez, dans leurs arguments, parce que le voisin surabonde. Donc, ce qui est intéressant là dans les récents événements qui concernent les Rohingyas, c'est qu'on a vu que à partir de 2016, après des décennies d'humiliation supportée, certains se raccrochaient au discours beaucoup plus radical d'un islam qui ne voulait plus supporter les humiliations de l'Occident. Donc il y a là effectivement une ampleur nouvelle et qui est beaucoup plus difficile à contenir. Et donc, je crois que, et pour revenir au discours de Madame Aung San Suu Kyi ce matin, on peut être déçu par le fait qu'elle n'a pas véritablement pris position contre les persécutions de l'armée, etc. Mais néanmoins, elle a très clairement répété que pour elle, l'objectif, c'était de ne pas voir la Birmanie divisée par les croyances religieuses, l'appartenance ethnique ou politique.
Didier Chaudet, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce conflit, à cette crise, il y a un risque de confessionnalisation, ou bien est-ce que la confessionnalisation, elle est déjà très largement avancée ?
J'aurais tendance à dire que la confessionnalisation, elle est quand même déjà là. Le fonctionnement nationaliste birman, la construction nationale birmane, c'est quand même beaucoup fondé sur la logique bouddhiste. Et on est bouddhisme, on est de l'ethnie principale birmane, c'est ce qui fait qu'on est birman. Les Rohingyas ne sont pas citoyens de la Birmanie depuis 1982. Ça marque les esprits dans l'ensemble de la région. C'est clairement vu comme le signe qu'il y a un rejet des musulmans quand ils sont une minorité dans un pays non musulman. Et un certain nombre de groupes utilisent ça, bien sûr, dans la région. Et du côté de l'Inde, on voit que les groupes hindouistes ont utilisé ce sujet depuis plus longtemps encore que la crise, et ils ont été très rapides pour dire qu'il était impossible de garder les Rohingyas qui étaient en Inde. Vous n'avez que 40 000 Rohingyas en Inde, en comparaison vous en avez 500 000 au Pakistan, aujourd'hui 750 000 au Bangladesh, mais les 40 000 Rohingyas, dont 16 000 sont des réfugiés, sont menacés d'être expulsés par le pouvoir indien, qui se fait influencer par cet extrémisme hindouiste qui a beaucoup de choses en commun avec les talibans, beaucoup de choses en commun avec les forces les plus dures dans l'islamisme radical et qui influence aujourd'hui le pouvoir indien. Donc vous avez en général dans un certain nombre de pays clés de la région des forces qui étaient déjà prêtes à instrumentaliser le conflit d'un point de vue confessionnel, d'un point de vue clash de civilisation, et qui aujourd'hui s'en donne un cœur joie. Et certaines de ces forces ne sont pas loin du pouvoir, mais en fait plutôt proches du pouvoir, et on le voit en Birmanie et on le voit en Inde. Ça n'est pas que dans les pays musulmans, c'est aussi dans les pays non musulmans qui utilisent cette crise pour pointer du doigt parfois leur propre minorité.
Est-ce qu'il peut même y avoir une autre forme aussi d'instrumentalisation, Dominique Moïse, c'est-à-dire au-delà de l'instrumentalisation directement confessionnelle, mais aussi une utilisation de ce conflit pour les grands pays musulmans et les dirigeants des grands pays musulmans pour se montrer peut-être les plus ardents défenseurs de la cause musulmane. Je pense par exemple au président turc Erdogan, qui a été un des plus virulents et un des premiers à intervenir pour marquer le soutien de la Turquie aux Rohingyas après les violences de la fin du mois d'août. Est-ce que c'est une façon peut-être déjà, alors pour lui, de redorer son blason auprès des populations musulmanes, pour faire aussi un petit peu oublier ce qui se passe peut-être avec les Kurdes, et d'asseoir aussi une forme de primauté par rapport à d'autres grandes puissances musulmanes qui, comme par exemple l'Arabie Saoudite?
Oui, on peut le penser. Et que se passerait-il demain si l'humiliation des musulmans apparaissait plus forte encore en Asie qu'elle ne peut apparaître au Moyen-Orient? Alors il y a bien entendu le discours d'Erdogan que vous avez souligné.
Qui alimente justement ce sentiment d'humiliation
oui,
pour vous.
Mais il y avait aussi, je crois, un discours d'Al-Baghdadi, le dirigeant de Daesh, qui avait dénoncé le silence de l'Occident devant les massacres et la voix trop discrète des dirigeants du monde arabe. Mais la question que l'on peut vraiment se poser est la suivante. Nous voyons des actes de terrorisme liés à Al-Qaïda, liés à Daesh, liés au fondamentalisme issu du Moyen-Orient qui se produisent en Asie. On a eu ça aux Philippines il n'y a pas si longtemps. Que se passerait-il si des groupes type Daesh ou Al-Qaïda décidaient que ils ont perdu la bataille territoriale au Moyen-Orient, mais ils peuvent la prolonger de manière avantageuse pour eux en Asie? C'est ça la vraie question. Alors je crois qu'on n'en est pas là du tout. Et Sophie Boisseau-Durocher a raison de dire que quand même il y a une forme de résilience d'organisation comme l'ASEAN, mais on n'en est pas loin. Et donc c'est me semble-t-il, la vraie dimension internationale de ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Et si c'était une étape malheureuse vers un mouvement de translation du terrorisme fondamentaliste du Moyen-Orient vers l'Asie du Sud.
Alors vous dites, Dominique Moïsi, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Didier Chaudet et Sophie Boisseau-Durocher? Didier Chaudet.
Je dirais qu'on évolue dans ce sens, que c'est dangereux, mais qu'il faut, on peut encore garder un certain optimisme si les grandes puissances se mettent enfin à faire leur travail. C'est-à-dire que le souci qu'on voit en ce moment dans la région, si on veut parler de la politique globale face à la crise qui touche les Rohingyas aujourd'hui, c'est que les États-Unis, la Chine et l'Inde ne sont pas capables de travailler ensemble pour essayer de pousser le Myanmar à accepter une situation de compromis. Parce que le vrai problème, il est là. Il va falloir qu'au niveau du pouvoir birman, on accepte que les Rohingyas reviennent et qu'on l'accepte vraiment. Le fait de faire fuir les Rohingyas, de dire qu'on va les réaccepter à nouveau, ça a déjà été fait avant. Et en fait, le plus souvent, les réfugiés ne peuvent pas rentrer. En fait, ça a été fait depuis la fin des années 40, début des années 50, à chaque crise. Donc, c'est difficile de croire le pouvoir birman de ce point de vue-là. Il y a toujours eu un blocage du pouvoir birman face à l'ASEAN quand l'ASEAN essayait de trouver des solutions. Seuls les États-Unis, la Chine et l'Inde, travaillant de concert, pourraient éviter cette politique du pire du côté birman, parce que le fait est qu'il y a une politique de nettoyage ethnique, que ce nettoyage ethnique est en cours, est bien avancé, et qu'on ne voit pas forcément le vrai pouvoir birman, c'est-à-dire l'armée, changer véritablement d'approche. Et la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas confiance les uns dans les autres, parce qu'ils sont dans une situation de compétition géopolitique de fait dans la région, n'ose pas faire pression sur le Myanmar, alors qu'ils ont tous à perdre à un pourrissement de la situation.
Donc ce que vous nous dites, Didier Chaudet, c'est que pour l'instant, en tout cas, il n'est pas trop tard pour éviter que la région autour de la Birmanie, disons l'Asie du Sud-Est, devienne une terre de conquête idéologique, et en tout cas peut-être territoriale, pour une organisation comme l'État islamique, à condition que les grandes puissances fassent leur travail. Est-ce que vous partager cette analyse, Sophie Boisseau-Durocher? Est-ce que vous diriez que justement ce risque-là, il est déjà peut-être un peu plus avancé qu'on ne l'imagine?
Alors non, je partage le fait que le risque n'est pas encore vraiment avancé. Il se trouve que lors des dernières attaques 2016 et 2017, à chaque fois qu'un poste de police a été attaqué, il l'a été avec Allah Akbar qui a été prononcé. Et donc, immédiatement, je dirais, cette revendication-là a été instrumentalisée par...
Quand des postes de police ont été attaqués, où ça?
En Birmanie, pardon.
D'accord. Hein,
par les Rohingyas. Effectivement, et à ce moment-là, tout de suite, le gouvernement a dit, on a affaire à des terroristes et il faut donc réprimer. Et donc, ça justifie, je dirais, ces interventions. Ce que j'ai compris quand même des discussions avec des personnes bien informées, c'était que rien n'était encore avéré. Et que précisément les armes qu'utilisait ARSA, qui est l'armée du salut Rohingya de l'Arakan, des Rohingyas de l'Arakan, cette armée utilisait aujourd'hui des moyens très rudimentaires, des armes très rudimentaires. Ce qui prouve que les circuits ne sont pas encore en tout cas bien établis et qu'ils ne disposent pas, si vous voulez, sur le plan logistique, d'une aide avérée et décisive.
Et sur le plan idéologique, Sophie Boisseau-Durocher, alors peut-être pas seulement d'ailleurs en Birmanie, mais prenons par exemple un pays comme l'Indonésie, enfin peut-être que vous voudrez en prendre un autre exemple. Alors l'Indonésie qui d'ailleurs a connu au début des années 2000 des attentats, on pense notamment à celui de je crois que c'était en octobre 2002 hein, sur l'île de Bali, Bali. Qui avait depuis, été revendiqué par des organisations islamistes. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un terreau sur lequel pourrait se développer ou se redévelopper justement ce type de combat?
Ah, il est clair que l'Asie du Sud-Est, qui accueille le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie effectivement, mais également la Malaisie, qui est un pays musulman, le sultanat de Brunei, et puis des populations musulmanes aux Philippines, en Thaïlande, et donc en Birmanie, est considéré aujourd'hui comme une terre de conquête islamiste. Et ça fait donc 15 ans que les gouvernements se coopèrent contre cette menace et ce risque de surenchère. C'est-à-dire que c'est non seulement un sujet sécuritaire, mais également un sujet politique. C'est-à-dire que la revendication est de donner à ces groupes une voix politique que pour l'instant ils n'ont pas et qui effectivement radicaliserait, si vous voulez, les enjeux intérieurs.
Et Dominique Moïsi ?
Non, la question que je me pose en tant que généraliste quand j'écoute un débat comme le nôtre, c'est celle de savoir si la thèse mise en avant par Olivier Roy en 2008 dans son livre « La sainte ignorance » s'applique à la crise que nous connaissons.
Alors rappelez-nous cette thèse.
Est-ce que vraiment il s'agit d'une dimension religieuse au sens strict du terme ou d'une dimension beaucoup plus culturelle? En fait, on ignore la religion quand on se bat en son nom, mais elle devient l'expression de son identité première. Donc, les Rohingyas se sentent-ils birmans? Ils ont été humiliés depuis que la Birmanie existe comme État indépendant. Être Rohingya, c'est une toute petite minorité. Donc, se revendiquer comme musulman, c'est soudain prendre une dimension plus importante. C'est un surcroît d'identité et de légitimité. Mais ça ne veut pas dire que la religion en tant que telle soit vraiment intégrée ou même connue.
Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire, Sophie Boisseau-Durocher, qu'il peut y avoir aussi une forme d'instrumentalisation de la part des Rohingyas, justement dans cette confessionnalisation, c'est-à-dire dans cette affirmation d'une appartenance à la communauté musulmane, pour créer justement de la solidarité et pour que ce combat-là ne soit pas seulement un combat d'une minorité face à la majorité birmane?
Alors, il y a deux choses. Les Rohingyas sont victimes d'une double discrimination. D'abord, en tant que musulmans de l'Arakan et en tant qu'Arakanais. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a eu un royaume de l'Arakan jusqu'en 1785, hein, entre 1432 et 1785, et que ce royaume a été occupé et dominé par les Birmans, hein, et que c'était un royaume finalement périphérique, et donc il n'a jamais vraiment fait l'attention de susciter l'attention de la capitale. Donc ça, c'est un point important. Et pendant très longtemps, dire qu'on était Arakanais, c'était dire qu'on venait vraiment du bout du monde, si vous voulez. Ça n'avait pas. Donc les Rohingyas sont effectivement victimes de cette double discrimination. Alors, il faut bien comprendre également qu'il y a d'autres petites minorités musulmanes qui ne sont pas Rohingyas en Birmanie et que ceux-là ne sont pas très contents du raffut que font aujourd'hui les Rohingyas parce qu'ils se sentent menacés. On se souvient qu'il y avait eu des viols à Mandalay il y a quelques années, en 2012 je crois, et que aujourd'hui la population, les autres minorités musulmanes ne veulent pas être entraînées dans une radicalisation qu'ils ne souhaitent pas. Donc si vous voulez, il faut bien comprendre que même au sein de la Birmanie, les musulmans ne sont pas tous solidaires entre eux, ce qui pose évidemment des problèmes. Et donc, il est plus facile pour eux d'être solidaires d'une cause transnationale, parce que ça leur donne effectivement une identité plus forte.
Didier Chaudet.
Je pense que voyant comment notre débat évolue, il est vraiment très important en effet d'insister sur le fait qu'il n'y a pas un bloc musulman asiatique face à un bloc non musulman. Jusqu'à il y a très peu de temps, au Bangladesh, il y avait une haine profonde des Rohingyas. On commence toujours à comprendre leur souffrance au Bangladesh à partir de cette crise, justement. Au Pakistan, c'est la même chose. Comme je l'ai évoqué au début de cette émission, 500 000 Rohingyas présents au Pakistan, 100 000 dans un grand bidonville du côté de Karachi. Ils ont exactement les mêmes problèmes de citoyenneté, d'identité qu'ils avaient en Birmanie. Et ce n'est qu'avec cette crise qu'une population pakistanaise comprend ce qui se passe et leur montre une réelle solidarité. C'est tout récent.
Solidarité qu'on pourrait qualifier d'opportuniste dans ces pays-là, Didier Chaudet.
Du point de vue de la population, c'est émotionnel et c'est en partie utilisé par certains acteurs politiques. Par certains acteurs politiques, cela va être bien sûr de la manipulation, mais du point de vue de la population et au-delà des groupes islamistes, c'est une réaction réelle. C'est un sentiment d'atteinte aux droits de l'homme face à une population à laquelle on s'identifie. J'aurais tendance à dire que du côté du Pakistan, si je me concentre sur ce pays, cela va avoir un impact sur la durée parce qu'il y a le sentiment en effet de voir une population musulmane dans un pays non musulman se faire massacrer, et la vision du Pakistan comme refuge pour les musulmans d'Asie du Sud prend encore plus sens quand on prend la Birmanie comme exemple. Bien sûr, du point de vue des islamistes et de la droite conservatrice pakistanaise, c'est du pain béni pour mettre en avant notamment la politique indienne dans une logique de clash de civilisation. Ici, maintenant, comme de tout temps, les extrémistes des deux camps se nourrissent par leur attitude respective.
Alors l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte hier, enfin avec les interventions des chefs d'État, et j'ai sous les yeux une dépêche qui vient de tomber de l'intervention d'Emmanuel Macron à propos justement de ce qui se passe en Birmanie. Je vous dis l'extrait qui est cité par la dépêche AFP. Les opérations militaires doivent cesser, l'accès humanitaire doit être assuré et les droits rétablis face à ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique, a donc dit Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dominique Moïsi, l'ONU, c'est le cadre dans lequel ce dossier doit être traité, peut-être pour essayer de le déconfessionnaliser et le circonscrire, disons, à justement la dimension qu'il aurait dû garder avant que d'essayer de le résoudre, c'est-à-dire une dimension strictement nationale.
Je crois que c'est le cadre le plus important. Alors, est-ce que ensuite il y aura une traduction régionale de l'intervention des Nations Unies, je ne sais pas. Mais c'est effectivement au niveau des Nations Unies que la crise doit être traitée avec, il me semble, deux points d'ancrage à la réflexion. Le premier consiste à dire le coût de l'indifférence, le coût de tourner les yeux et de mettre la crise sous le tapis, c'est préparer peut-être des générations de futurs terroristes qui auront vu leurs parents être massacrés sous leurs yeux dans l'indifférence de la communauté internationale. Le deuxième point, à l'inverse, c'est qu'il n'y a pas d'appétit d'intervention. Pour le moment, on en est à la demande, j'espère crédible, d'un cessez-le-feu qui est imposé à l'armée birmane. Le sang a assez coulé. On doit faire respecter la trêve par les Nations Unies. Alors comment le faire? C'est toute la question. Oui, qui va envoyer des casques bleus en Birmanie?
Vous dites, Dominique Moïse, il n'y a pas d'appétit d'intervention. Il n'y a peut-être pas non plus, de toute manière, quand bien même il y aurait cet appétit d'envie de le faire, enfin, au regard des risques, on le sait bien aussi, que peuvent provoquer des interventions. Il y avait Dominique de Villepin qui était l'invité des Matins de France Culture aujourd'hui, qui revenait justement sur ces interventions qui n'auraient pas, peut-être pas dû avoir lieu, en tout cas pas dans ces conditions, notamment sur celle de la Libye. Une intervention internationale en Birmanie, ça serait quelque chose d'extrêmement dangereux, ou alors sous certaines conditions, Sophie Boisseau-Durocher?
Alors, il y a plusieurs points. D'abord, les droits rétablis des Rohingyas demandés par Emmanuel Macron, je suis quand même très surprise, parce que précisément, les Rohingyas n'ont pas de droits. Donc ça, c'est un premier point. On peut être surpris, ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils doivent demander une autorisation pour se marier, ils ne peuvent pas voter, etc. Donc il y a toute une série de mesures discriminatoires et ils ont finalement des droits, mais vraiment réduits au minimum.
Il faut les établir plutôt que de
les
rétablir.
Il faut les établir. Premier point, la traduction régionale, je crois qu'elle est indispensable. D'une part, parce que effectivement, le terme même de communauté internationale hérisse énormément l'armée. Alors là, je reviendrai sur ce que disait Didier Chaudet tout à l'heure, le pouvoir en Birmanie, c'est d'abord un pouvoir bicéphale. Il faut bien se rendre compte qu'il y a d'un côté l'armée et de l'autre côté la Ligue nationale pour la démocratie avec Aung San Suu Kyi. Donc, si vous voulez, la marge de manœuvre de l'une est quand même fortement réduite par les droits, parce qu'ils ont des droits constitutionnels, de l'autre, de l'armée en l'occurrence. Et donc, cette armée est de toute façon réticente à une intervention internationale. Ça fait 20 ans qu'elle est réticente au jugement de la communauté internationale, et donc il faudra intervenir par proxy interposé, et comme avec le cyclone Nargis en 2008, il n'est pas impossible que l'ASEAN réussisse là à jouer cette fonction.
Sauf que ça pourrait aussi profiter à l'armée birmane, une intervention internationale. Est-ce qu'elle pourrait pas en profiter pour retrouver une partie du pouvoir qu'elle a perdu avec le tournant démocratique de la Birmanie?
L'armée birmane a contrôlé ce tournant démocratique, qui n'est pas vraiment démocratique, qui est un tournant politique. Elle contrôle encore l'Assemblée, elle a un droit de veto qui est important, et donc, si vous voulez, pour l'instant, précisément, elle n'a aucun intérêt à un basculement démocratique. Elle aurait plutôt intérêt précisément à radicaliser la situation pour justifier de son retour au pouvoir.
On a parlé dans cette émission, Didier Chaudet, des impacts avérés et possibles de cette crise birmane. Mais on peut terminer effectivement sur la question intérieure birmane et sur l'impact que pourrait avoir une intervention internationale. Il y a des équilibres au sein de la Birmanie qui sont fragiles, une jeune démocratie qui n'est pas exempte, on le voit, de critiques, mais en tout cas qu'il faut aussi essayer de préserver.
Là est toute la question. Au-delà de la démocratie telle qu'on la voit de façon un peu mécanique, il y a le vivre ensemble, il y a le fait d'accepter l'autre avec une vision citoyenne d'une démocratie et pas une vision ethnique ou ethnico-religieuse. Et le souci qu'on a aujourd'hui en Birmanie, c'est qu'on a certes un pouvoir bicéphale, mais dans les deux cas, du côté des civils comme du côté des militaires, il y a cette vision nationaliste birmane qui est d'abord bouddhiste et qui a un problème avec les Rohingyas très, très clairement. Quand on voit la façon dont Aung San Suu Kyi a vu la question des Rohingyas, pas que ces deux ou trois dernières semaines, mais ces dernières années, on se rend compte que le sujet ne l'a pas touché comme on aurait aimé que ça la touche comme grande humaniste. Et là, ça pose un véritable problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir un changement radical du côté birman pour accepter l'autre, même quand il n'est pas bouddhiste, même quand il n'est pas de l'ethnie majoritaire.
Bien, merci beaucoup à tous les trois. Je suis désolé, Didier Chaudet, on est obligé de s'arrêter. C'est la fin de cette discussion. Merci en tout cas beaucoup d'y avoir participé depuis Hong Kong. Merci à vous, Sophie Boisseau du Rocher, ainsi qu'à vous, Dominique Moisy. Cette émission, vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page du Grain à Moudre.